Dr. Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou. Et comment on peut stationner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris.
Et toi, tu fais quoi dans la vie ?
Moi, je suis archéologue.
Ah, c'est génial, mais c'est trop drôle parce que tu sais que c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Et c'est fou parce qu'en fait, j'avais donc le coffret entier hein, de Indiana Jones. Et derrière, chez mon grand-père, il y avait donc un grand terre-plein. Et avec mes cousins, à chaque fois, on y allait, on faisait des chasses au trésor et tout. Enfin bref, on s'amusait, c'était génial. On déterrait souvent des trucs avec des pelles, bref. Enfin, ça doit être super excitant comme métier, non ? Tu dois trouver des trucs hyper flippants.
L'archéologie suscite très souvent l'intérêt, voire l'excitation de la population, mais aussi parfois de la méfiance et même de l'animosité. En bref, l'archéologie fait beaucoup l'objet de fantasmes qui entravent parfois la transmission des connaissances. Alors comment parvenir à aller au-delà de ces barrières ? Comment et pourquoi transmettre les connaissances aux habitants d'un territoire étudié ? Quels peuvent être les apports de l'implication des publics pour l'archéologue ?
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicole Rodrigue, directrice donc de l'unité archéologique de la ville de Saint-Denis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et de Mathieu Écrabet, également archéologue au sein de l'unité et chargé notamment des fouilles programmées de l'île aux Cygnes, dont il nous parlera ce soir entre autres. Bonsoir à tous les deux et merci de votre présence à nos côtés ce soir.
Bonsoir.
Également avec nous Catherine Lara. Catherine, bonsoir.
Bonsoir.
Catherine Lara, vous êtes postdoctorante au laboratoire Préhistoire et Technologie et vous êtes récemment docteur, vous avez été docteur en juin dernier je crois. Merci d'être avec nous ce soir.
Les pierres qui roulent pour toi public, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
Ça fait 5 ans que je travaille ici, dans cette zone, à Monte Alban. J'aime beaucoup ce travail. Je suis là parce que c'est bien d'apprendre ce que savaient nos ancêtres, comment ils travaillaient et avec quelle technologie. C'est très beau et c'est très agréable de mieux les connaître.
Tout de suite, c'est Manon qui commence avec sa chronique. Manon, tu vas nous parler de quoi ?
De l'homme de Kenwick.
On t'écoute.
À la fin du mois de juillet de 1996, deux adolescents remontent les rives de la rivière Columbia dans l'état de Washington, près de Kenwick, afin d'observer une course d'hydroglisseurs. C'est alors que sur leur parcours, ils trouvent un crâne et quelques ossements. La police est tout de suite appelée pour enquêter et découvre non pas quelques ossements, mais un squelette complet. Par la suite, une étude au carbone 14 indique que le squelette est vieux de 8500 ans. Ce squelette, que l'on appelle rapidement l'homme de Kenwick, serait donc un ancêtre des tribus indiennes de la région. Une vraie et unique source d'information pour les anthropologues. Oui mais voilà, une controverse s'impose rapidement. Est-ce que éthiquement, il ne faudrait pas remettre les ossements aux représentants des tribus indiennes de la région ? En effet, dans les croyances autochtones locales, un mort doit être inhumé avec des rituels spécifiques. Cet ancêtre, doit selon eux être rapidement inhumé selon les traditions. Dès le départ, le corps des ingénieurs de l'armée américaine qui gère le territoire décide de remettre l'homme de Kenwick aux tribus indiennes de la région pour éviter tout conflit. Mais certains anthropologues des universités du Michigan, de l'Oregon et de l'Institut Smithsonian à Washington bloquent cette décision par une injonction. Ils estiment en effet que la science est une réponse à tout et donc elle devrait avoir préséance sur les droits religieux et les croyances des citoyens américains. Pour ces anthropologues, il existe donc un droit d'étudier ces squelettes et d'apprendre ainsi des choses sur ces personnes. C'est la loi NAGPRA qui protège alors les ossements de l'homme de Kenwick, puisqu'elle définit que les vestiges archéologiques d'avant 1492, soit l'arrivée des Européens, est affilié aux autochtones et qu'en ce sens, il y a une affiliation culturelle significative entre les ossements et les groupes autochtones. Mais quelles preuves scientifiques y a-t-il, clament les anthropologues ? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a une affiliation culturelle, une affiliation génétique entre l'homme de Kenwick et les populations locales ? D'autant plus que quelques analyses du crâne montrent rapidement des origines des îles polynésiennes ou du Japon. Nous n'avons jamais demandé à la science de déterminer nos origines. Nous savons parfaitement d'où nous venons, clame le porte-parole de la tribu des Lokoba. C'est seulement en 2004 que se clôt ce long débat judiciaire et la cour tranche en faveur de la science. Ainsi, la loi Nagpra est écartée et les anthropologues ramènent l'homme de Kenwick au Muséum d'histoire naturelle de Seattle. Ce débat entre croire et savoir, entre tradition orale et science, est un cas parmi tant d'autres. Mais faut-il tout excuser au nom de la science ? Des recherches ADN récentes montrent que l'homme de Kenwick est en fait une adolescente. Et pas seulement en fait, parce que cette étude génomique, menée par l'équipe internationale dirigée par le paléogénéticien Eske Willerslev au centre de géogénétique du Muséum d'histoire naturelle du Danemark, affirme un lien biologique entre les Amérindiens actuels et l'homme de Kenwick. Qu'en est-il alors des ossements aujourd'hui ? Ne devrait-il pas être protégé de nouveau par la loi Nagpra ? Il est probable que la justice soit de nouveau amenée à trancher. Faut-il donc respecter les croyances de chacun et ainsi prendre le parti de voir s'enterrer une source de données importante ? Ou faut-il estimer que la science a ce droit légitime et international sur les vestiges que l'on retrouve ? C'est le genre de débat qui a toujours fait polémique car il est difficile d'y répondre puisqu'il oppose véritablement deux notions qui ont toujours fait débat, le savoir et le croire.
Radio Campus Paris.
Merci Manon pour cette chronique polémique. On apprend quand même pas mal de choses et notamment sur la confrontation de l'archéologue, notamment la légitimation de certaines sociétés, sur un territoire donné et la récupération politique parfois de certains faits archéologiques. Donc existe-t-il une demande sur un territoire donné ? Est-ce qu'il peut exister des raisons également de s'impliquer avec les populations locales ? Lesquelles sont-elles ? Sont-elles positives ? Sont-elles négatives ? Comment y répondre ? Donc, à vous, donc nos intervenants, quel accueil en général vous est-il réservé, Nicole Rodrigue ?
En général, un accueil très favorable, bienveillant, beaucoup de curiosité, beaucoup de questions, beaucoup de relations avec le quotidien. Nous sommes un service municipal d'archéologie, nous travaillons dans une ville, nous y travaillons depuis très longtemps. Nous avons acquis avec le territoire et avec ceux qui y vivent une grande proximité, parfois une complicité. Mm-hmm. Nous avons travaillé avec des lycéens qui ne sont plus lycéens, puisque ça fait pas mal d'années. Et puis aussi avec des étudiants, nous avons aussi ouvert les chantiers, montré ce que l'on faisait. Et donc cette espèce de circuit de l'information, du questionnement devient quelque part un petit peu naturel.
Donc une entente cordiale entre l'archéologue et ses publics. Voilà. Et vous, Catherine Lara, vous avez travaillé donc en Équateur.
Voilà, c'est ça, en Amérique du Sud, donc plutôt dans le domaine de l'histoire précolombienne. Donc, j'ai été confrontée à plusieurs expériences, mais en général, je dois dire que les communautés avec lesquelles je travaille sont assez bienveillantes. Elles sont assez intéressées aussi, elles voient les vestiges au quotidien et elles veulent savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que parfois, au début surtout, on a un peu de méfiance, parce que bien sûr, les gens voient débarquer chez eux des étrangers, en réalité, et ils se demandent un peu pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on vient faire. Malheureusement, dans certains cas, ils ont eu des expériences un petit peu négatives, alors soit avec le gouvernement ou alors avec des instances privées. Donc du coup, au début, il y a un peu cette méfiance, mais très rapidement, ils s'aperçoivent qu'en fait, on ne vient pas du tout leur faire du mal, au contraire, et très vite, un dialogue et un partage s'instaurent.
Vous avez été face à certaines polémiques, notamment dans certains des travaux que vous avez pu mettre en place ?
Alors oui, c'est en particulier, ça concerne un projet qui a eu lieu en 2013 suite à la découverte de la tombe du dernier empereur Inca qui a été proclamée par une historienne en Équateur. La nouvelle a fait un buzz dans le monde entier. Ici, des articles sont parus dans Science et Vie, on a parlé d'en Faut pas rêver, des racines des ailes, etc. Et je me suis retrouvée avec une collègue équatorienne à diriger le projet qui devait déterminer sur place si oui ou non le site en question était bien la tombe du dernier empereur Inca. Voilà, donc bien sûr, tout de suite, les grands propriétaires terriens sur place et les politiques ont vu les millions de dollars débarquer avec toute la manne touristique qui pouvait être représentée par cette perspective. Finalement, les résultats en fait, du projet n'ont pas vraiment confirmé cette hypothèse de la tombe du dernier empereur Inca. Mmh. On a plutôt trouvé un autre scénario. Et bien sûr, la nouvelle n'a pas beaucoup plu aux propriétaires terriens et aux politiques en question. Donc voilà, ça nous a mis dans une position un peu délicate.
Donc pourquoi est-ce qu'on décide de s'engager dans un travail archéologique avec les populations locales, avec les gens qui habitent sur le territoire? Mathieu Écrabet, quel était, vous, votre intérêt en tant qu'archéologue de...
Alors pour moi, c'est tout simplement le partage. Voilà, c'est le partage, c'est la transmission des savoirs, c'est... Voilà, c'est tout simplement oui, transmettre, partager le savoir qu'on tire.
Parce que vous, en plus, la particularité du site, c'est qu'effectivement, donc, vous l'avez dit, il existe depuis longtemps et il s'inscrit donc dans la continuité avec les habitants et ce qui se passe actuellement. Il y a notamment un projet qui s'appelle la Fabrique de la Ville que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit?
Alors, concernant la Fabrique de la Ville, donc, la Fabrique de la Ville, c'est un échafaudage où il y a une maison, plutôt le squelette d'une maison, qui est recouvert d'une bâche, et ça nous permet simplement de faire ce qu'on appelle l'archéologie du bâti. Et cette maison qui a évolué avec la ville nous donne simplement des informations donc, sur la ville, sur son évolution. Et cette maison qui est également implantée sur le site archéologique, ce qu'on appelle l'île aux cygnes, donc ça nous permet simplement de parler d'archéologie, comme on dit, du toit au sous-sol.
Il y a une vraie implantation finalement de la Fabrique de la Ville au sein du centre urbain et donc archéologique de Saint-Denis.
Tout à fait.
Nicole Rodrigue.
Une implantation, une visibilité aussi, puisque cette Fabrique de la Ville a été conçue par Patrick Bouchain, qui est un architecte qui travaille notamment sur l'éphémère, dans le monde circassien aussi. Et donc ce grand champignon en bâche de cirque blanc à pois rouge, est aussi un signe de l'existence très visible, qui pose plein de points d'interrogation et qui permet aussi de réfléchir sur le chantier. C'est un chantier archéologique, c'est une maison que l'on construit ou que l'on
détruit,
qu'est-ce qui se passe? Et l'intérêt aussi des échafaudages, c'est qu'il y a une proximité avec la ville, bien sûr, mais il y a aussi la possibilité de voir la ville d'en haut. Et donc la distance de chacun, de chaque individu, de chaque visiteur, par rapport à l'archéologie, par rapport au bâti, par rapport à la ville. Donc on travaille à la fois sur l'archéologie du bâti, comme le disait Mathieu, sur une archéologie stratigraphique, une archéologie urbaine très, très précise, et également des réflexions sur l'architecture et l'urbanisme. Et donc tout cela permet de proposer aussi des pistes pour les scolaires, des pistes pour les enseignants. Voilà, donc c'est un lieu un petit peu étonnant où on peut prendre une certaine distance, un point de vue particulier qui plaît aussi aux artistes de Saint-Denis. Il y a beaucoup d'artistes qui ont exposé, qui vont exposer, etc. Et
puis c'est un lieu aussi dans lequel, on le disait hors antenne tout à l'heure, chacun aussi peut-être a grandi avec ce site archéologique, donc l'abbaye notamment, et puis le site archéologique plus récemment.
Oui, on connaît, donc Saint-Denis est une ville de plus de 100 000 habitants, mais c'est également une ville très, très vivante, une ville où il y a des anciens chemins, des anciens lieux qui ont été habités, qui ont été fouillés par les uns les autres. Voilà. Et puis il y a aussi cette réflexion avec les collègues de l'INRAP autour de l'archéologie ACE, archéologie dans l'Europe contemporaine, le projet NEARC.
Vous avez eu effectivement un prix. Un prix du patrimoine européen en 2016,
oui,
notamment.
Oui, c'était un très grand honneur pour la ville, pour les équipes qui ont travaillé. Voilà, aussi un sujet de réflexion.
Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent de la part du public? Une question qu'on vous pose le plus souvent quand on s'approche du site et qu'on regarde par-dessus les
bâches? Tout simplement, c'est « qu'est-ce que vous cherchez ?»
Oui, on cherche toujours forcément quelque chose.
Voilà, et donc, une fois que l'intégration et la question est posée, donc là, on se fait un plaisir de pouvoir répondre et d'expliquer effectivement les problématiques scientifiques et tout le travail qu'on a pu mener jusqu'à présent.
Il y a toute cette question, ce qu'on disait un peu en blaguant en début d'introduction, cette question de « on trouve des trésors, on trouve vraiment des choses importantes, parce qu'il y a « qu'est-ce que vous cherchez ?» et puis « qu'est-ce que vous trouvez aussi ?» Est-ce que vous avez des moyens de présenter rapidement, quand les gens vous posent des questions, des choses un peu évidentes, de montrer de la stratigraphie?
Alors, l'avantage, c'est-à-dire que lorsque les... Puisqu'on a vraiment... L'Hylocine, c'est un site qui a été fait, notamment avec... qui a été pensé entre le pôle archéologique et le pôle médiation, pour que le public puisse vraiment déambuler. Donc, voilà, donc il a été pensé comme ça au départ. Et donc, c'est-à-dire que le public est au plus près des archéologues. Et tout simplement, lorsqu'on commence à fouiller, donc ils nous interpellent. Et donc on s'arrête un petit moment, on leur montre le mobilier. Donc, ils peuvent des fois même toucher le mobilier qu'on sort, pour pouvoir expliquer.
Ça sensibilise effectivement de pouvoir avoir accès aux objets directement. On passe à une petite pause musicale avec Jacques Dutronc.
Millions de Chinois. Et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies sémétiques, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèvent la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
Maïs.
Quand ils plantaient du maïs, ils trouvaient des vases et des figurines, à même le sol. Ils les mettaient contre des troncs et ils lançaient des choses dessus pour voir qui en cassait le plus. C'est pour ça qu'il y a plein de boues par terre. Ils en ont cassé beaucoup. Les personnes qui vivent ici depuis plus longtemps, leurs pères et leurs grands-pères, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils se disaient. Allez, viens, on va casser les vases pour voir qui en casse le plus. On est toujours donc sur Radio Campus Paris 93.9. On a entendu Jacques Dutronc avec Et moi, un titre de 1966. Et on vient d'entendre, comme tout au but de l'émission, des sons de Monte Alban au Mexique qui nous ont été gentiment donnés par Alénor Letouzé et Franck Garcia qui y étaient il n'y a pas longtemps encore.
Catherine Lara, sur votre terrain en Amérique du Sud, notamment en Équateur, à partir de quel moment est-ce que vous vous trouvez en contact avec la population, avec les communautés locales?
Alors en fait, je dirais que ça se fait pratiquement de manière automatique. Alors déjà, pour préciser, je fais deux genres de terrain, en quelque sorte. Le premier est un terrain plutôt archéologique, où je suis amenée à faire des prospections et des fouilles. Et le deuxième est un travail plutôt ethnographique, où je travaille donc avec des potiers, parce que je me spécialise dans la technologie céramique précolombienne. Donc dans les deux cas de figure, alors il faut demander l'autorisation, parce que les sites que l'on veut fouiller ou prospecter, bien sûr, se trouvent dans des propriétés privées, donc il faut demander l'autorisation aux propriétaires pour pouvoir y accéder, et dans le cas des communautés de potiers, pour pouvoir observer leur travail, éventuellement leur poser des questions, leur demander de faire des choses, bien sûr, il faut aussi leur demander l'autorisation, notamment si on veut filmer ou prendre des photos.
Et les propriétaires terriens, par exemple, ils acceptent facilement ou il y a parfois un petit peu des soucis qui peuvent arriver à cette occasion-là?
Alors, bon, ça, on a tous les cas de figure. Un petit peu, comme je disais au début, on a toujours un peu de méfiance au départ. Donc, bon, il est important d'avertir les autorités locales de notre présence sur place et déjà de leur expliquer qui on est, ce qu'on veut faire, qu'on a les autorisations qui sont imposées par les autorités nationales au niveau de la culture. Donc, une fois qu'on a ce premier contact, une bonne chose est d'aller voir les propriétaires, un par un, de se présenter, enfin, en compagnie de l'autorité locale, de se présenter avec les autorisations, leur expliquer ce qu'on veut faire, etc. Et là, en général, ça se passe bien. Une autre chose qui fonctionne aussi et qui est très productive d'un autre côté est d'organiser des espèces de réunions avec la communauté, donc avec tous les propriétaires, les représentants politiques, pour leur présenter en gros qui on est, ce qu'on veut faire, et un petit peu, vous en parlez tout à l'heure, leur expliquer un peu ce qu'est l'archéologie, les notions de base, qu'est-ce qu'on cherche, comment on fait et quelles sont les questions qu'on se pose et pourquoi c'est important qu'eux participent, parce que ce sont eux qui habitent sur place, c'est eux qui connaissent le patrimoine, qui sont plus à même de le valoriser et de le faire respecter et qui ont aussi des connaissances qui, nous, archéologues, peuvent nous être particulièrement utiles. Donc là, leur faire comprendre qu'en fait, ça ne va pas se faire dans une direction, le travail, mais ça va être un partage entre eux, les habitants sur place, et nous, les scientifiques.
À quelles connaissances faites-vous allusion plus particulièrement? Qu'est-ce qu'ils ont que nous, quand on arrive sur place, on n'a pas forcément?
Alors en fait, bon, ça se fait à plusieurs niveaux. Déjà, souvent, ils ont des traditions orales très riches, donc des mythes, des légendes, des savoir-faire aussi, qui sont retransmis de génération en génération depuis X temps, donc qui nous renseignent beaucoup par rapport aux questions qu'on peut se poser en tant qu'archéologue. Au niveau des connaissances du milieu naturel, vu que souvent, ils habitent là depuis des générations, ils connaissent parfaitement leur milieu, qu'est-ce qu'on a comme plantes, comme animaux, pour guérir certaines maladies par exemple, comment est-ce qu'on peut vraiment tirer profit de son milieu, ce qui sont des questions qu'on se pose aussi en archéologie quand on se demande comment vivaient les gens qu'on étudie. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure avant le début de l'émission, au niveau de la stratigraphie, ce sont des experts parce que vu qu'ils travaillent leur champ, ils connaissent très bien la Terre, donc ils sont capables de vous dire pourquoi la Terre change de couleur, quand est-ce que la Terre change de couleur, parfois des nuances qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on n'est pas habitué, et bien eux qui travaillent la Terre tous les jours, ils sont capables de vous le dire. Et puis du coup, au niveau des fouilles, ça donne des stratigraphies parfaites, quoi.
D'accord.
Vous avez notamment donc travaillé donc dans la vallée Couillès.
Oui, voilà, c'est ça.
Avec donc autour de sculptures, notamment pour votre doctorat. Et vous avez notamment travaillé aussi à partir de techniques de céramique, notamment celles que vous étudiez de populations préhispaniques, en lien avec des techniques pratiquées actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ce projet et comment vous l'avez mis en place? Quel a été le départ de ce travail?
Alors en fait, la question qu'on se posait par rapport à cette vallée du Couillès, c'est qu'elle se trouve à la transition entre les hautes terres andines et les basses terres amazoniennes. Et elle présentait des vestiges architecturaux assez imposants. Et on se demandait qui les avait construits. Donc on avait de la céramique, mais sans décor. Donc on ne savait pas très bien à quelle population les rattacher. Donc on ne fait plus de céramique aujourd'hui dans la vallée du Couillès. Pardon, je n'ai pas précisé que ces structures dataient a priori d'une époque assez récente. Donc à peu près 400 ans, 500 ans avant l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Donc voilà, on avait cette céramique, on se demandait qui avait bâti ces structures. On ne fait plus de céramique donc aujourd'hui dans la vallée du Couillès. En revanche, juste à côté, aussi bien au niveau des Andes, donc à l'ouest, que de l'Amazonie à l'est, on a encore des potiers qui fabriquent des récipients céramiques. Et on dit que ces potiers sont les descendants des populations précolombiennes qui habitaient sur place. Donc, je suis allée faire une étude du matériel ancien.
Comment est-ce qu'on prouve ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a des moyens de prouver ce genre de choses ? Est-ce que c'est eux qui le disent effectivement parce qu'ils y habitent et qui sont sur place?
Alors en fait, ce sont des traditions orales à la base. Okay. Donc les gens se revendiquent comme descendants de populations précolombiennes. Mais justement, à travers mon travail, j'ai pu prouver que c'était vrai, entre guillemets. Parce qu'effectivement, quand j'ai étudié les techniques de fabrication de céramique qui, comme vous le savez, perdurent dans le temps, notamment au niveau du façonnage, eh bien, je me suis aperçue que depuis l'époque précolombienne, des objets qui datent d'il y a 2000 ans pour certains, eh bien, on retrouve la même manière de faire que parmi les populations qui se disent actuellement descendantes des populations précolombiennes. Donc voilà, on a vraiment cette tradition qui s'est perpétuée.
Et vous avez mis en place des ateliers pour essayer de faire peut-être du travail autour des techniques de céramique?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'abord sur le terrain, je suis allée donc voir comment travaillaient les potiers, etc. Parfois, je leur ai demandé de faire des choses précises pour me renseigner sur tel aspect de telle technique. Et dans un deuxième temps, alors dans le cadre du projet ANR dirigé par ma directrice de thèse, Valentine Roux, une exposition a été faite à Cuenca, la ville, la capitale, on va dire, régionale, où justement, parce qu'on s'est dit, ce travail de ces potiers, c'est un savoir-faire vraiment unique, qui n'est pas parfois particulièrement mis en valeur par la population en général, mais qui, en fait, nous vient d'une époque ancestrale, de l'époque précolombienne, et il était important de le mettre en valeur. Donc, cette exposition a été faite aussi avec le ministère de la Culture de l'Équateur, justement pour que les gens puissent prendre connaissance de ces traditions anciennes, les mettre en valeur aussi. Donc, du coup, on a invité les potiers pour qu'ils puissent participer à l'exposition. C'était vraiment eux les vedettes. Ils étaient très contents. Là, et on est venu les interviewer, la télé, valeur, la radio. Et puis voilà, et certains ont amené donc leur argile, leurs outils, et ils ont commencé à fabriquer leurs pots devant le public, devant les enfants, enfin une population, on va dire, citadine, parce que ces potiers travaillent à la campagne. Donc en fait, ce sont des mondes qui ne se croisent pas forcément. Oui. Donc là, du coup, il y a eu un dialogue, un partage qui était assez intéressant. Et pour les potiers, ça a été une expérience très gratifiante.
Nicole Rodrigue, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous parliez également de pratiques qui avaient été faites également à Saint-Denis du même type.
Oui, tout à fait. En relation avec l'association Franciade, une habitante de Saint-Denis, ivoirienne, potière, fille, petite fille, arrière-petite fille de potier, de Catiola, a travaillé à partir de poteries découvertes à la plaine Saint-Denis en particulier, certaines du néolithique ancien, d'autres de l'Athènes. Et elle a, pendant plusieurs semaines, non pas copié les pièces en question, mais essayé de rentrer, entre guillemets, dans la peau du potier, c'est-à-dire de retravailler les gestes. Et donc, au bout de quelques temps, elle a obtenu des poteries assez proches de l'original. Et à ce moment-là, nous avons décidé de cuire les poteries en question, et en particulier de les cuire en meule. Et la particularité, c'est que cette cuisson a eu lieu à 150 mètres de la basilique de Saint-Denis, en plein cœur de la ville. Avec les habitants du quartier, un peu étonnés de voir la fumée, cet attroupement. Et puis, tout ce travail s'est poursuivi, a été réitéré à plusieurs reprises. Voilà, un partage aussi, un croisement d'expériences.
Et en parlant de fumée, en parlant de feu, justement, vous évoquiez l'expérience, alors j'ai oublié le nom, c'est Truelle et Cacahuètes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Voilà, c'est-à-dire que pour renouer avec le passé qu'on avait sur Saint-Denis, où la population était vraiment impliquée dans l'archéologie, on a voulu mettre en place des nouveaux ateliers pour vraiment impliquer la population, pour qu'elle puisse vraiment... s'intégrer encore plus dans son patrimoine. Donc on a mis d'abord en place un premier atelier qui s'appelait donc la session habitant. Donc pendant une semaine, donc les habitants sur la fouille programmée du Cygne donc pratiquaient l'archéologie. C'est-à-dire pendant une semaine, donc ils voyaient à peu près le panel qu'il existe en archéologie. Donc ils faisaient de la fouille, ils faisaient également de la post-fouille, du lavage, du tri. Ils faisaient également du dessin, ils faisaient des relevés. Et à la fin, donc le dernier jour, vendredi, on finissait avec le petit barbecue, donc le petit moment convivial. Et on a voulu réitérer cette expérience donc pour les habitants qui ne peuvent pas également se libérer sur une semaine. Et donc là, on a proposé sur des soirées. Donc c'est là qu'on a trouvé le concept, donc truer les cacahuètes. Donc pour toujours le petit côté convivial, où voilà, donc on commence effectivement autour d'un verre, des cacahuètes, et ensuite on se met sur l'atelier où du lavage, du tri, et en gros pendant ce temps, donc il y a un échange qui se met en place, et effectivement les habitants sont très friands de ces ateliers.
Et ce dont vous parlez, donc, ce sont des stages que vous organisez à la base pendant une semaine, c'est ça, pour
c'est
les habitants du territoire.
Tout
comment vous avez mis en place ce genre de projet, à quelle initiative, quand est-ce que ça a commencé?
Alors ça a commencé, donc on a mis en place ces ateliers donc l'an dernier, c'était pour la septième campagne donc de l'île du Cygne. Donc on a mis en place ces ateliers donc. Comme je l'ai dit, donc c'était pour renouer avec les coutumes qu'on avait sur Saint-Denis, où la population était vraiment impliquée dans l'archéologie. Nous, on s'était rendu compte que les habitants, il y en a certains qui ne pouvaient pas faire des sessions, parce qu'on proposait des sessions de 3 semaines, notamment avec les bénévoles et les stagiaires, voire 1 mois. Donc il y a beaucoup qui ne pouvaient pas dégager autant de temps. Donc on a voulu faire quelque chose de plus condensé. Et donc on a proposé donc, 7 semaines des habitants. Et en gros, on a proposé donc 5 sessions. Donc c'est donc des sessions d'une semaine qu'on a proposées pendant de juin jusqu'à novembre, où les habitants pouvaient pendant une semaine rentrer dans la peau des archéologues et travailler avec nous.
Et ces publics actifs, ce sont quel type d'habitants du territoire? Ce sont des étudiants?
L'avantage, c'est qu'on a eu la mayonnaise a pris, on a eu à peu près tous les âges, donc ça a été de l'étudiant au retraité, donc on a vraiment un panel assez large.
Donc ça permet aussi de se faire se rencontrer les
tout
publics
à fait,
entre
tout
eux
à fait.
Et les habitants du territoire. On va faire une petite pause, une autre pause musicale, et on revient juste après.
You sold it slower to find your man. You waited long enough, hesitated over love, now you're taking over us. Cause you waited long enough, hesitated over love, now you're taking over. Believe it. Ha, ooh, but I can't just believe it.
un titre de 2016. À Saint-Denis, il y a une autre expérience dont on n'a pas encore parlé, qui est à la base, qui a été mise en place à l'occasion de la construction du Stade de France, un parcours autour du patrimoine et de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage ?
Volontiers. Donc, le Stade de France est arrivé à Saint-Denis en 1998, mais sa venue a été préparée quelques années avant. Et il y a eu une demande de la ville de Saint-Denis, de la mairie, pour demander à différents services s'ils avaient des idées pour valoriser la ville au travers de son histoire, par exemple. Et il se trouve que, en tant qu'archéologue travaillant en milieu urbain et travaillant en archéologie urbaine, nous mettions en place l'Atlas historique de Saint-Denis et aussi toute une réflexion autour de la topographie historique. Et cette réflexion de la ville en calque superposée, en strates, ce qui est notre quotidien, notre métier, nous avons voulu à la fois la développer autour d'un parcours de la basilique au Stade de France qui a été fait avec un plasticien, Jean Quiras, avec un historien, Luc Fauchois. Et l'objectif était de dire nous sommes à la basilique, nous sommes au début d'une histoire, nous allons au Stade de France, nous sommes au troisième millénaire et en 1,7 km nous marchons, nous sommes des piétons et nous avons un certain nombre de bornes, il y en a 20, qui permettent de faire remonter l'histoire. Et à partir de cela, notre réflexion s'est un petit peu développée et nous avons conçu une mallette de puzzle. Et comme nous sommes un petit peu monomaniaques autour de la stratigraphie, nous avons conçu des strates en carton. Et le principe est de déconstruire la ville ou de remonter le temps en se saisissant de strates en carton qui peuvent dater de l'époque actuelle et qui permettent de remonter jusqu'à l'an 1000, un petit peu avant. Et le principe est d'avoir une mallette qui se transporte dans des collèges, qui peut se transporter aussi dans des démarches quartiers, c'est-à-dire auprès d'habitants le soir, qui peut aussi servir à des urbanistes. C'est un moment, comme le disait Mathieu, de partage là aussi, et aussi de repères sur la ville. Et pour pousser un petit peu plus loin la réflexion, nous avons produit une sorte de concept qui est la ville invisible. C'est-à-dire que l'on peut se promener à Saint-Denis et faire saisir à ses promeneurs tout ce qui peut remonter de l'histoire passée. Simplement en expliquant, en montrant, c'est de l'interprétation, voilà.
Quel enjeu pour toutes ces pratiques de médiation extrêmement inventives à Saint-Denis pour les communautés, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu?
L'enjeu, c'est considérer que nous travaillons sur un territoire, que ce territoire a une richesse absolument infinie au niveau de son histoire. C'est assez extraordinaire, véritablement, de travailler à Saint-Denis parce que vous avez toute une série de passerelles possibles. Vous avez aussi une connaissance maintenant de ce territoire qui évolue et c'est très très pédagogique. Et donc le but, c'est de dire que nous, habitants de Saint-Denis, nous, salariés d'un territoire, nous travaillons, nous vivons sur ce territoire, nous avons une expérience actuelle du territoire, mais nous pouvons nous situer sur ce territoire au travers de repères anciens. Et puis, on parlait tout à l'heure de poterie au travers de découvertes, parce que ce que vous disiez, c'est ce qui se fait aussi, mais d'une manière un petit peu différente. C'est que, par exemple, la céramique, découvrir de la céramique, c'est réfléchir à un outil qui est généralisé, des sensibilités, des souvenirs, un éveil de mémoire pour les jeunes, mais aussi les plus âgés. Voilà. Et donc, c'est comme des petits aiguillons, hein, de mémoire.
Un passage de savoir-faire. Et au-delà aussi de ce plaisir de la transmission du savoir et de la cohésion autour d'un objet, on évoquait tout à l'heure le cas de cette potière ivoirienne qui a recréé des formes anciennes avec ses techniques à elle. J'imagine que pour une céramologue, c'est absolument passionnant de voir justement comment est-ce qu'on se réapproprie des formes avec des techniques anciennes. Ça éveille chez vous des réflexions intéressantes. Enfin, ça vous intéresse ou pas de
Catherine
voir
ça Lara. Bah oui, justement, dans le cas de la potière ivoirienne, on en parlait un peu, mais j'imagine qu'elle utilisait ses techniques. Alors, est-ce que c'était les mêmes que celles de la période néolithique ou on ne sait pas trop. Mais voilà, justement, ce sont des questions qu'on peut se poser et qui sont tout à fait passionnantes. Donc, un petit peu pour continuer avec cette idée de partage, c'était, comme je vous le disais, dans cette exposition avec les potiers, un moment tout à fait émouvant de voir que ces traditions ancestrales étaient partagées avec un public qui n'est pas forcément au fait de ces réalités. Donc, voilà.
Et pour vous, en tant que chercheuse, quels ont été les apports et les enjeux de cette recherche et de ces liens, justement, ces relations que vous avez mises en place pendant ces expositions et ces relations ?
Alors, dans l'ensemble, aussi bien sur le terrain archéologique que dans le domaine ethnographique. Alors, bien sûr, sur le plan scientifique, il s'agit d'une expérience qui a été très enrichissante. Donc, mes collègues et moi-même avons appris énormément. Et les données que nous avons pu récupérer nous ont permis de répondre, en fait, aux questions qu'on se posait, aussi bien sur le plan archéologique qu'ethnographique. Et sur le plan humain, bien sûr, ça a été aussi une expérience très gratifiante parce que, comme je vous le disais, on a eu une vraie relation de partage avec aussi bien avec les paysans qui travaillaient sur les sites que nous avons fouillés qu'avec les potiers donc qui ont en quelque sorte accepté de partager leur savoir-faire. Mmh. Donc ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils avaient aussi des questions à nous poser.
Et, lesquelles, par exemple ?
Alors bien sûr par rapport notamment aux propriétaires terriens qui en fait avaient des sites archéologiques. Mmh. Chez eux. Bien sûr, ils voient ces sites tous les jours. Quand ils retournent la terre, ils trouvent des morceaux de céramique, des artefacts lithiques, et ils se demandent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être, à quelle époque ça remonte. Donc, ils ont quelques idées. Je vous parlais des traditions orales, mais du coup, avec les résultats de ma recherche doctorale, j'ai pu leur apporter des réponses. Et bien sûr, grâce aussi, comme je vous disais, à leur collaboration, à ces mêmes traditions orales. Donc, du coup, il y a vraiment eu un partage de connaissances. Et dès que possible, je leur laisse toujours des copies de mes rapports, de mes publications, des articles, des photos aussi. On en parlait tout à l'heure, ils aiment bien garder un souvenir un petit peu de cette expérience partagée. Donc c'est important aussi de leur laisser, de leur montrer en fait que, voilà, que comme je vous le disais, c'est pas une relation où moi je viens puiser une connaissance et je repars chez moi. Non, c'est vraiment un échange et eux, il leur en reste quelque chose.
Et sur les différentes campagnes que vous avez pu mener, est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au fur et à mesure à chaque fois que vous êtes retourné sur place? Est-ce qu'aujourd'hui, si vous retournez travailler là-bas, vous avez encore des contacts avec les mêmes personnes?
Oui, bien sûr. Bon, ça fait déjà 10 ans que je fais du terrain en Équateur. Mmh. Donc voilà, il y a des vraies relations qui se sont nouées avec les personnes. Alors, la vallée du Couillès en particulier est un petit peu inaccessible. Il n'y a pas de route. Donc en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de loger chez l'habitant. Et donc du coup, ça vous permet aussi de louer des liens. Vous faites pratiquement partie de la famille. Vous devenez pratiquement amis avec les personnes avec qui vous travaillez. Mmh. Elles vous voient travailler au quotidien, etc. Donc il y a vraiment des liens qui s'installent. Chez certains potiers, c'est la même chose. Certains d'entre eux habitent dans des endroits un peu reculés. Mmh. Et donc, en fait, j'habitais chez eux. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai habité chez eux. Et pour moi, ça a été une expérience humaine vraiment formidable. Parce qu'en fait, ce sont des gens très, qui sont humbles. En fait, ils n'ont pas grand-chose. Mais le peu qu'ils ont, ils le partagent avec vous. Mmh. Et ça, c'est une expérience humaine absolument incroyable.
L'idée, justement, c'est de partager aussi vous en retour avec eux.
Voilà.
Nicole Rodrigue, Mathieu Grabet, vous parliez vous également tout à l'heure la question voilà du temps long en fait de ce site et le fait que il peut y avoir effectivement des gens qu'on retrouve au fur et à mesure et qui ont grandi avec le site. Quels ont été pour vous socialement, humainement puis scientifiquement les apports de votre travail et quels sont-ils encore aujourd'hui?
Nicole Rodrigue. Alors scientifiquement, c'est un chantier infini. Oui. C'est découvrir une ville ancienne. Au départ, c'était travailler autour de la basilique, Et puis c'est devenu quelque chose de très différent, puisque c'est vraiment la construction d'une ville, l'artisanat aussi. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est un point important. J'ai plus travaillé sur des objets, et donc c'est la construction d'un fonds documentaire sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, avec de la verrerie, avec du bois, avec du cuir. Tout cela, c'est très important, et aussi réfléchir à la conservation. Donc un travail de longue date avec l'Université de Paris 1, avec le master, ce que l'on appelle actuellement le master en conservation-restauration des biens culturels, et construire ensemble avec les enseignants, avec les étudiants, faire des essais de consolidation, de prélèvement, sauver entre guillemets des vers, voilà, et transmettre aussi. Hein. Nous avons expérimenté ensemble, et ça c'est important, réussite, échec. Et humainement, c'est un la ville de Saint-Denis sous cet angle-là est un élément comment dire fort dans une vie. Mm-hmm. Les échanges, on apprend énormément, mm-hmm. apprend de tous ceux qui vont donner une petite remarque, dire moi je voudrais savoir, ah mais j'ai eu l'habitude de travailler sur ces cuirs, dans mon métier nous avions fait cela, qu'en pensez-vous? Et là on entame des discussions infinies. Voilà, c'est ça aussi qui est très fort.
Et puis une pluridisciplinarité aussi, vous en parlez hein, pour ce qui est de la fabrique de la ville, une pluridisciplinarité, une ouverture sur l'archéologie industrielle et contemporaine aussi, donc tout ce qui est archéologie bâtie et donc archéologie industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou est-ce un peu compliqué?
On n'est pas les spécialistes de l'archéologie industrielle.
Avec beaucoup de personnes sur place en tout cas.
Voilà, ce sont les collègues du département. Mm-hmm. Du conseil départemental qui ont une très grande connaissance mmh. de ce sujet. Nous sommes plutôt, je dirais, spécialisés dans les périodes médiévales, mmh. Modernes, voilà. Et puis un petit peu plus anciennes aussi.
Bien sûr.
Voilà.
On va écouter tout de suite notre deuxième volet pour la présentation des Journées nationales de l'archéologie qui auront lieu en juin. On l'écoute tout de suite et on revient vers vous juste après.
Les Journées nationales de l'archéologie. Durant ces journées, on pourra visiter à Paris le village de l'archéologie dans la cour de l'hôtel de Soubise. En amont de son ouverture, les Pierres qui roulent vous proposent de suivre la mise en place de ce village.
Émilie Cavanin est archéo-géographe. Julien Avinin est archéologue. Ils travaillent tous deux au service archéologique de la ville de Paris, au sein du département d'histoire de l'architecture et de l'archéologie de Paris, où nous les avons rencontrés.
On travaille au service archéologique de la ville de Paris, qui est l'héritier de la commission du Vieux Paris, qui est un très très vieux service, créé en gros à la fin du 19e siècle, après les destructions haussmanniennes.
Le service archéologique a déjà 170 ans d'activité. On a 170 ans d'archives qui n'ont pas été toutes exploitées, donc on a aussi quasiment tout à faire, tout à redécouvrir.
Le service continue d'assurer le suivi à la fois de l'aménagement du territoire parisien et dans le cadre de l'archéologie préventive est amené aussi à faire des fouilles, des diagnostics.
Les Journées nationales de l'archéologie, c'est tout d'abord l'occasion de faire connaître le service, son histoire et ses actions.
Il va avoir une grande frise chronologique et on va en fait dérouler l'histoire du service. On voudrait mettre en valeur les fouilles anciennes, donc nos prédécesseurs, Vaquet et consorts. Donc on veut aussi mettre en avant les belles photos qui ont été faites à la fin du 19e siècle sur les grandes fouilles. Donc en parallèle avec les grands travaux qui ont eu lieu dans Paris, de Haussmann à nos jours.
Et en plus de ça, des panneaux explicatifs des fouilles les plus récentes, oui. Pas forcément les plus
oui,
récentes.
Oui aussi.
Oui, il y aura les dernières grandes fouilles. Donc il y a la place du Père Tellard de Chardin, c'était l'enceinte de Charles V, l'église de Charles Garonne. Et puis, il y a eu un petit sondage à Notre-Dame.
Ce qu'on aimerait aussi, c'est montrer qu'il y a différentes spécialités dans le service. C'est-à-dire qu'on a des collègues plutôt spécialisés en antiquité, comme Julien. Jean-François est plutôt spécialisé sur le Moyen-Âge. Catherine aussi, sur le bâti. Moi, je suis archéogéographe, donc il y a une spécialité qui est en train de se démocratiser. On a une collègue restauratrice d'objets. Donc en fait, on voudrait aussi montrer que le service, c'est une multitude de compétences qui convergent vers un projet en fait commun.
Depuis 3 ans, l'un des projets actuels du service, sur lesquels travaillent tous deux Émilie et Julien, est la carte archéologique de Paris. Il nous explique en quoi cela consiste.
On va présenter essentiellement le projet de mettre en place une carte archéologique pour Paris, de pouvoir cartographier le sous-sol parisien d'un point de vue archéologique. Il fallait construire déjà l'architecture base de données et l'architecture générale du produit fini, quoi.
Alors c'est un programme collectif de recherche, récap, référentiel et cartographie de l'archéologie parisienne. Donc on a le cadre du PCR, et après comme c'est un projet de service, c'est sur du long terme. Et...
Les 3 premières années, moi déjà je faisais que le corpus, qui est le référentiel, la liste de tout ce qu'on a trouvé à Paris. Ça a nécessité aussi de faire des tables de concordance, en quelque sorte, entre les sources déjà existantes, des cartes papier des années 70, la carte archéologique de la Gaule pour la période antique qui a été publiée à la fin des années 90. Et tout ça, il fallait le ressaisir.
Donc c'est la première fois.
C'est un peu inédit, ouais, de pouvoir déjà présenter nos projets à ce moment-là. Souvent, on va plutôt vers le public à l'occasion de fouilles. Donc là, c'est aussi intéressant de faire l'exercice... inverse, de pouvoir prendre le temps de discuter de ce qu'est notre métier aussi, parce que souvent ça donne aussi une image trompeuse d'ouvrir que les chantiers un peu exceptionnels au public. Souvent ils ont l'impression qu'on fait que ça ou qu'on découvre que des choses exceptionnelles et qu'on passe pas du tout de temps à chercher les sites aussi, parce qu'il y a toute la phase de diagnostic qu'on montre moins et qui est moins visible. Et c'est intéressant aussi de pouvoir revenir sur l'activité de recherche aussi, parce que l'archéologie passe souvent pour c'est une passion, mais c'est plus rarement un métier, quoi. Les gens ont moins cette notion de service, d'opérateur archéologique et de recherche, quoi. L'archéologie, c'est pas une chasse au trésor, et qu'il y a une démarche scientifique derrière les choses qu'on connaît, derrière l'acquisition des données scientifiques, des savoirs.
Pour les Journées nationales de l'archéologie, le service archéologique de la ville de Paris vous proposera d'avoir accès à une ébauche de cette carte archéologique sous format numérique.
On a prévu un grand écran où on va pouvoir projeter des petits reportages ou des petits PowerPoints sur les activités du service. Et à côté de ça, il y aura 2 postes où les gens pourront consulter en fait la carte archéologique. Donc en fait, ils vont avoir le lieu de découverte, l'adresse exacte, l'année de la découverte, le découvreur.
Oui, on va essayer de montrer qu'à travers un projet de numérisation, d'informatisation des données, on peut aussi faire revivre des choses et en les sortant de leur écrin, des archives, quoi. C'est-à-dire qu'on peut réactualiser des données, les réexploiter, relancer des analyses, notamment par le biais de la cartographie. Donc il y a encore des choses à faire. Les GENA, de toute façon, c'est aussi l'occasion de parler au public de ce qu'on fait, mais aussi ils sont souvent intéressés de savoir ce qu'il y a eu de découvert autour de chez eux. Souvent, ils sont assez frappés de voir l'évolution de la ville, de l'urbanisme. Je ne parle même pas forcément d'archéologie, mais de voir qu'au 18e, toutes les communes annexées, donc en gros les arrondissements périphériques n'étaient pas occupés, c'était la campagne. Donc, rien que ça, souvent les gens ils sont un peu étonnés, donc ils aiment bien jongler entre... les cartes actuelles et les cartes anciennes. Je crois que l'idée, c'est aussi de susciter le dialogue, quoi, c'est-à-dire de discuter ces données-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se posent la question de savoir mais comment on sait que, voilà. Et ça, je crois que c'est important de l'expliciter aussi en matière d'archéologie, parce que donc ça va être cette occasion-là de revenir sur l'idée de source et d'analyse de la source, voilà, pour faire parler les gens et puis pour qu'ils nous fassent parler.
Les Journées nationales de l'archéologie, ce sont les 16, 17 et 18 juin prochains.
Et les Journées nationales de l'archéologie, c'est aussi à Saint-Denis. Que se passera-t-il ?
Alors, nous sommes en train de réfléchir. Nous étions hier en réunion à ce propos. Et donc, la fouille des fossés carolingiens va se poursuivre quelques mois, puisque nous n'avons pas pu terminer le prélèvement des bois et des cuirs en raison des intempéries.
Oui.
Et donc, nous sommes en train de réfléchir à propos de cela.
Une prolongation
Oui, de toute façon. Et peut-être une ouverture. On ne sait pas si ce sera le samedi et le dimanche, ou uniquement le dimanche.
D'accord.
Uniquement le samedi. Voilà.
Merci. Et plus proche dans l'avenir, donc, il y aurait donc une semaine organisée pour les jeunes.
Tout à fait. Donc là, on voudrait mettre en place, on va dire courant juillet, donc une semaine donc, pour les jeunes, où ils pourraient fouiller, mais surtout travailler sur le mobilier. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire donc, du lavage, du tri, donc travailler également même sur peut-être même le mobilier organique. Donc voilà, donc vraiment qu'ils puissent...
Et quand vous dites jeunes, c'est...
Alors pour nous, les jeunes, c'est plutôt on va dire, entre 16 et 25 ans, donc ouais. De cette tranche-là.
Qu'on les ados et... Voilà. Petits adultes.
C'est ça.
Ah, début d'adultes. Et vous avez parlé aussi d'un festoche.
Alors effectivement, donc là c'est le Festoche in the Garden. Donc là c'est un festival qui va avoir lieu pour sa troisième édition donc, à Saint-Denis. Mm-hmm. Donc les 26, 27 et 28 mai.
Oui.
Et donc pendant ces trois jours, donc, il y aura des expositions, des concerts sur l'espace public. Donc ce qu'on veut mettre en place, c'est faire vivre les espaces publics. Et la Fabrique de la Ville sera un lieu où il y aura des expositions, des concerts. En gros, c'est pour que les personnes puissent venir sur la Fabrique, pas forcément pour voir de l'archéologie, mais qu'ils puissent déjà mettre un pied et profiter pour leur parler. Voilà.
Et ce week-end, le 22 avril, il y aura la marche pour les sciences qui va commencer depuis, si je ne me trompe pas, le Jardin des Plantes à 13h le 22 jusqu'à la place Saint-Michel. Donc je vous invite à venir y participer pour défendre la place des sciences dans le monde de la culture, le monde de la communication, le monde de la politique.
Le monde en général.
Le monde en général, voilà. Merci vraiment à tous. Merci Léa, merci Manon, merci à tous nos invités, Catherine Lara, merci à Nicole Rodrigue, merci à Mathieu Crabet, à tous d'être venus ce soir. À bientôt.
Manon, tu veux dire quelque chose ? Un petit rappel sur le fait que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Exactement, oui.
Facebook, Twitter et réagir à l'émission avec le hashtag LPQR.
Merci beaucoup à tous et au mois prochain. It was a little bit of a